France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la tornade, Michel Pollack. Le 20 septembre 1987, le tout nouveau président de TF1, Francis Bouygues, licencie le journaliste Michel Pollack pour faute grave. En réalité, une mise en cause de la CNCL, l'ancêtre de l'Arcom, et une insulte à la société qui l'emploie, TF1. Un événement anodin dans une société du spectacle habituée au changement de programme? Pas du tout. D'abord, parce que ce licenciement symbolise une entrave à la liberté d'expression, valeur cardinale des années mitterrandiennes. Mais aussi, parce que cette émission, nommée Droit de réponse, n'est pas un simple talk show. Annoncée comme un grand rendez-vous populaire, elle incarne le virage culturel voulu par la gauche au pouvoir. Une émission ouverte à tous, aux stars, mais aussi aux syndicalistes ou aux anonymes. Une sorte d'agora enfumée et alcoolisée, où l'on débat, quitte à s'insulter, le tout en direct et en prime time. Un dispositif alors inédit à la télé. Et son arrêt provoque un immense scandale. Derrière ce licenciement se cache aussi un piège, une manœuvre politique subtile qui illustre les affres de la cohabitation de 1986. Notre invité aujourd'hui, Laurent Geoffrin, journaliste. Nous entendrons également le témoignage de Catherine Veil-Siné, qui était la rédactrice en chef de Droit de réponse. Affaires sensibles, une émission de France Inter diffusée en direct. Récit documentaire, Sophie Bobert. Rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca de Nantes. Réalisation, Étienne Bertin.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Samedi 17 janvier 1987. Ce soir-là, dans les studios de la SFP, le tout Paris est présent. Écrivains, journalistes, hommes politiques, tous sont là, cigarette à la main, verre de champagne dans l'autre. Tous célèbrent la 500e de Droit de réponse, l'émission star des années 80, orchestrée par Michel Pollack. Et tous veulent le voir, ce Pollack, lui parler. Une aura que François Giroud définit par ces mots. Pollack est un provocateur, certes, mais il adore rendre la justice sous son chêne. Il ne fait pas dans la nuance, on peut s'en agacer, mais du moment où l'on prend du plaisir. Si l'émission provoque ce plaisir contrarié, c'est parce que jusque-là, le samedi soir, on s'ennuie et ferme. La télévision diffusait des shows familiaux et pailletés à la Maritier Gilbert Carpentier, comme ici, lorsque le Latin lover Julio Iglesias chante avec Sheila, l'ex-star des Yéyé.
Il fait nuit sur l'hacienda, une nuit légère.
En silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios mi vida. Vaya con Dios.
Bon, ça c'était avant. Avec Droit de réponse, tout change. Fini les samedis soirs décérébrés. L'ambiance d'abord. À chaque fois, à l'issue du générique de fin de feuilleton Dallas, apparaît sur l'écran un décor de bar tabac aux couleurs inquiétantes et crépusculaires. Puis arrive le générique signé Michel Portal. Un son qui s'impose d'emblée comme une tension et qui suggère l'idée d'un bourdon entêtant.
Bonsoir.
Original, agaçant, oui un peu quand même, mais c'est parfaitement volontaire, car la suite sera à l'avenant. Au micro donc, c'est Michel Pollack. Air de vieux sage, pipe et moustache grisonnante, l'homme à l'œil qui frise. On le pense d'extrême gauche, il se dit un art. On l'imagine porté par le chaos, il assure n'être qu'un écrivain porté par l'angoisse qui admire Céline et Saad, loin, si loin de Julio Iglesias et de Sheila. Côté image, le réalisateur Maurice de Gosson ringardise les chants contre chants et propose des travelling, dramatise l'ambiance avec des contre-plongées lorsqu'il ne se balade pas sous les tables ou à côté des tables avec ses caméras insidieusement. autour de ces tables des stars, des anonymes, des politiques, des ex-dollars parfois. En somme, une agora enfumée et foutraque, qui parfois dérape, commence 2 janvier 1982. L'émission n'a qu'un mois, et déjà les invités y perdent leur nerf. À l'image du dessinateur ciné, passablement aviné, qui craque en plein direct et insulte le directeur du journal d'extrême droite Minute.
Un petit peu de silence, je voudrais. Non, écoutez, on repart pas maintenant, ça suffit. Un peu d'humour.
Je suis comme les lycéens, je crois à certaines valeurs, et la liberté, c'est une valeur auquel je crois. Merde, ciné. Et si c'est con croire à la liberté, je suis un con.
Je dis toujours la parole à ces cons-là, jamais à nous. Merde, nous les prolos, nous les damnés de la terre, on a le droit de jacter, on vous emmerde. Et on n'emmerde jamais, et on emmerde, bon. Et on emmerde Minute.
Tandis
et
que
le
alors,
premier qui essaye de
tandis
venir
que moi, je vous emmerde.
Tandis que
bon,
moi, je vous emmerde.
Je vous déteste.
Moi, je vous déteste pas.
Moi, je vous déteste pas.
Envoyez le
sujet.
Pollack supplie, mais reste matois. Il triture le revers de sa veste moutarde, remet en place ses lunettes et semble hésiter. Car tout de même, l'idée n'est-elle pas de déstabiliser les puissants en laissant les invités s'exprimer? Quelques minutes plus tard, c'est au tour du professeur Choron d'insulter de jeunes lycéens qui ont osé qualifier Charlie Hebdo de journal de vieux.
Je dis que ces gens-là n'ont rien à dire. Pourquoi tu les invites?
Parce que tout le monde a le droit de parler, même ceux qui n'ont rien à dire.
Pourquoi tu invites des lycéens qui ne veulent rien dire? Ça ne veut plus rien dire, les lycéens. C'est des merdeux.
Alors, il faut
des trous du cul. Des cons.
Merci sûrement.
Bon, allez. Alors, écoute, excuse-moi. J'espère que la caméra est sur moi. Bon. Pollack, je voudrais dire que ce que je viens d'entendre dire là, c'est rien du tout. C'est des mots de ma mère. C'est des mots de ma grand-mère. C'est des mots imprimés qu'on leur a mis dans la tête. Ils n'ont rien à dire, ces jeunes cons-là. Excuse-moi
bon,
du
allez,
mot.
Pas d'un,
bon,
pas...
ils n'ont rien à foutre. Bon.
Ce sont
des petits ânes qu'on nourrit, c'est très bien, et qui ferment leur gueule.
Merci, Choron.
Fermer leur gueule, difficile si l'on considère que le principe même de l'émission est de l'ouvrir. Sauf que le lendemain, la presse crie au scandale, à l'image de l'Humanité qui déplore un cloaque, ou du Figaro qui évoque lui un processus délibéré de dégradation intellectuelle et morale de la France. En tout cas, la direction de TF1, chaîne publique, à l'époque, convoque Pollack sur le plateau du 20h.
Cette émission devrait être un défouloir et on cherche un petit peu où parfois s'exprimer lorsqu'on est en colère ou qu'on a envie de clamer quelque chose, dénoncer quelque chose ou un enthousiasme d'ailleurs. Et je voudrais que cette émission serve de défouloir pour des tas de gens et puis droit de réponse parce que si on est attaqué dans une autre émission ou dans un article, il faut pouvoir venir répondre. Mais la règle du jeu, c'est la règle du jeu démocratique. Moi je crois à la démocratie, je suis un pacifique, moi et un innocent. Je crois qu'on peut mettre face à face n'importe qui et que de l'instant où on est doué d'un don de parole et heureusement l'être humain a encore le droit à la parole et le don de la parole, ils doivent pouvoir s'expliquer. Alors on peut mettre en face un homme de Minute et un homme de Charlie Hebdo, ils doivent pouvoir se parler. Bon, l'expérience n'a pas tout à fait réussi, mais je reste optimiste, je crois qu'on devrait arriver à entamer le dialogue. C'est ça le jeu de cette émission.
Non, l'expérience n'a pas tout à fait réussi, comme il dit. Mais rien de mieux qu'un beau scandale pour lancer sa marque. C'est-à-dire que, soudain, l'émission fait débat, et dans la France entière. Et les caméras affluent dans les rues parisiennes pour capter cet air du temps qui signe le changement. Florilège.
Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Ils n'ont pas redoré leur blason.
Qui?
Les gars de Charlie Hebdo.
C'est un scandale. Absolument idiot. Ça, c'est un avis absolument unanime.
Je suis d'accord avec vous.
Est-ce que vous avez été tenté de tourner le bouton?
Oh, mais comment donc? J'ai voulu quand même aller jusqu'au bout.
Pourquoi?
Voir un peu. Jusqu'à quelle limite on pouvait se permettre de tenir de tels propos, mais pas dans une émission publique.
J'ai trouvé ça quand même assez grossier. Hein.
Ah oui.
Parce que, bon, on peut dire ce qu'on pense, mais dire des gros mots, je suis pas ambitieuse, mais ça m'a un peu choqué quand même.
Hein. Au moins, on vit comme tous les jours quand je suis au bistrot du coin. Ah, si je discute avec des gens, je parle comme ça. Et voilà, c'est tout. Mais autrement, c'est sensationnel.
Et les intellectuels ne sont pas en reste. Dans Le Parisien, l'écrivain Jacques Lanzmann écrit « Cette émission, tout le monde la regarde, les adultes, les enfants, les banquiers, les intellos, les truands, les oisifs. Parce qu'elle réveille en chacun de nous un certain esprit frondeur de 1789, l'esprit qui fait les révolutions. C'est tout le Parlement français réuni. Un Parlement où les vedettes à court, Gérard Depardieu, Guy Bedos, Coluche, Claire Bretéché, Jean Daniel, Olivier Todd, Anémone. Que tout cela fleure bon les années 80. » Période charnière qui marie le charme de l'insouciance et la vulgarité de l'argent roi. La liste des invités de Polak est impressionnante. Car si en être, c'est détenir une certaine aura, c'est aussi avoir voix au chapitre dans une France qui a intégré le fameux adage de 1968 « Il est interdit d'interdire ». Oui, cette émission renverse la table. Il faut se souvenir que, jusqu'en 1981, la télévision se veut familiale, consensuelle, comme un passeport pour l'ennui. Or, avec l'arrivée de François Mitterrand à l'Élysée, tout change. Les figures de proue, jugées trop complaisantes avec la droite, sont d'ailleurs évincées, et vite. Exit le journaliste Jean-Pierre Elkabbach, considéré comme giscardien indécrottable. Exit Daniel Gilbert, qui n'aura jamais cessé tout au long de ses émissions d'encenser son Giscard adoré. À la place, le PS met en orbite des personnalités plus intellectuelles, plus modernes. On découvre alors Christine Ockrent, Frédéric Mitterrand, et on redécouvre Michel Polak. Oui, on redécouvre, car l'homme n'est pas inconnu du public, loin de là. Ancien critique littéraire à l'Express, c'est lui qui crée en 1955, avec François-Régis Bastide, Le Masque et la Plume sur France Inter, émission mythique à la longévité exceptionnelle. Après quoi, il participe aux émissions d'Indamdom, Bibliothèque de Poche et enfin Postscriptum, où le 20 avril 1971, dans le sillage du film de Louis Malle, Le Souffle au cœur, il aborde une affaire sensible parmi toutes, l'inceste.
Écoutez, je reviens à ce problème du tabou abordé, dépassé par Louis Malle. Ce que je voudrais demander, je crois, à certains d'entre vous, et peut-être à M. Rossolato, c'est si le sentiment qu'aujourd'hui, on peut dépasser... Je crois que nous avons fait une petite déviation sur le problème s'il fallait encourager ou décourager l'inceste. Je crois que ce n'est pas du tout le problème que pose Louis Malle. C'est que Louis Malle a fait quand même un film qui est, je sais pas, l'ère du temps d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est 1971 son film, bien qu'il se passe en 56. Hein. Mais enfin, je veux dire qu'on n'aurait pas fait ce film en 56, 54, 54. Est-ce que vous pensez que chez les jeunes clients que vous pouvez avoir, il y a cette libération et cette capacité de transformer par le rire et l'humour des problèmes graves?
Il y a quand même des problèmes graves qui doivent rester graves, je pense. Mmh. Tu vois, je ne parle pas seulement des questions sexuelles, mais dans d'autres domaines. Mmh. Je ne pense pas qu'on puisse tout tourner à la rigolade, c'est pas possible. Mmh.
Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Bien ancré dans son temps, Polak fait de l'inceste une question et il laisse ses invités en rire, voire défendre cette pratique. Un choix éditorial fatal pour le journaliste qui est immédiatement viré. Une longue traversée du désert s'ensuit, jusqu'à ce qu'en 1981, la gauche nomme un nouveau directeur des programmes pour TF1 en la personne d'André Harris. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est lui qui en 1971 avait co-signé avec Marcel Ophuls le documentaire Le Chagrin et la Pitié que le général de Gaulle avait censuré. Et il a vraiment envie de faire souffler un vent nouveau sur le paysage audiovisuel français. Nouveau et anti-gaulliste. Il se tourne donc vers le sulfureux Polak, qui revient en grâce. Dans le journal Le Quotidien du 6 juin 1981, le journaliste Georges Marc Benamou, proche du pouvoir, se pâme.
Toute la carrière de Michel Polak a été ainsi faite de ruptures et de refus. Une inflexibilité peu commune en ce monde. Et aujourd'hui, à l'heure où vont s'opérer de nombreux reclassements, à l'heure où l'on ouvre les placards, on peut se demander si ce n'est pas l'heure pour ce gauchiste, disent les uns. Pour cet anard de droite, disent les autres, du grand retour.
Un grand retour et une immense revanche. D'ailleurs, Michel Polak, pas vraiment étouffé par la modestie, déclare « Droit de réponse a percé une brèche dans le système mondial de la télévision. » Rien que ça. Quoi qu'il en soit, brèche ou pas, l'émission cartonne et ses équipes lui en sont reconnaissantes. Les journalistes, bien sûr, mais aussi les dessinateurs qui officient en direct. Une première dans les dispositifs télévisuels. Parmi eux, Cabu, Viaz et Ciné. Souvenir de Viaz dans la revue Schnock, je retiens une ambiance. Il y avait une mauvaise foi absolue mais assumée. Et les invités le savaient. Comme ça, c'est clair. TF1 reconduit donc Polak pour l'année suivante. Toujours en prime time et toujours en direct à 20h30. Les sujets y sont de plus en plus explosifs. La pyramide du Louvre, les dom-toms, les notaires, la psychanalyse.
J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les aperçu que m'a vu venir. Dieu avait mis un kilt. Y a dû y avoir des fuites. Oh, oh, vertige de l'amour. Mes circuits sont niqués. Puis y a un truc qui fait masse. Courant peut plus passer. Non mais t'as vu ce qui passe. J'veux le feuilleton à la place. Oh oh, vertige de l'amour. Tu chopes des sphères à Saigon. J'm'écris des cartes postales du front. Si ça continue, je me découvre.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, droit de réponse de Michel Pollack.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Automne 1985. Soudain, au Palais Bourbon, la séance des questions d'actualité glisse sur le service public après que Michel Pollack a licencié en direct 6 de ses journalistes. Une annonce immédiatement dénoncée par le président de TF1, Hervé Bourges, ainsi que par la Haute Autorité de l'Audiovisuel. Côté RPR, le député Robert-André Vivien en profite pour déplorer que le champion de la liberté et de la démocratie annonce à l'antenne le licenciement de ses journalistes sans que ceux-ci ne puissent se défendre. Une pratique qui soudain, c'est vrai, jette un voile sur l'aura du producteur star. Alors que faire? Nier, bien sûr. C'est la ligne de défense de Pollack, qui publie dans Le Monde une tribune titrée « Comment on fabrique un scandale ?». Hélas pour lui, quelques jours plus tard, l'une de ses victimes réplique en publiant un texte qui s'achève par ces mots terribles « Faut-il accepter l'arbitraire ?». Mai 1968 a aussi produit ses mandarins. Une toge libertaire ne change rien au fond. Alors, un mandarin Pollack ? L'image fait débat. Car de leur côté, ses plus proches collaborateurs, Maurice Dugosson, Cabu, Ciné, le défendent et rejettent la faute sur un système plus global, une précarité inhérente à la SFP, Société Française de Production. Soucieux d'éviter une grève, TF1 promet un vaste plan d'intégration de tous les pigistes réguliers. In extremis, Pollack vient de sauver sa tête. Car si les professionnels s'interrogent, son aura infuse et l'émission bat des records d'audience. Les Français raffolent de ce rendez-vous, de ces empoignades, de ces moments de vérité. Voilà pourquoi on lui pardonne tout, et en premier lieu ses excès. Comme le jour où, surgissant du public, un agitateur lance un cendrier à travers le plateau entre France Gall et Juliette Gréco, une séquence devenue culte.
Silence, s'il vous plaît.
On peut dire quelque chose.
S'il vous plaît. Je voudrais signaler que sur ce plateau ce soir sont venus des invités qui ont chacun le droit d'amener un invité qui se tait, voilà. Qui est assis dans le fond de la salle. J'aurais voulu que ces gens respectent un peu l'émission. Alors, je voudrais quand même... Non, allez, on le sort, ce monsieur. Parce que... Alors, nous allons écouter...
On va intervenir.
Donc, je regrette que les invités m'aient amené des énergumènes avec eux. Bon, nous allons lancer le sourire. voyez le générique de fin. Et je vais vous faire écouter une chanson que j'aime beaucoup, qui est un tube. Cette chanson, c'est une chanson de Sia Colombo.
Bon, alors, Sangos, regarde ce qu'il a fait.
Non, laissez-le là.
Donnez-le.
Envoyez le générique de fin et coupez l'image parce que c'est vraiment pas plaisant. Mettez le générique de fin avec la chanson de Pia Colombo. On coupe l'antenne et je m'excuse auprès des téléspectateurs. Allez, arrêtez.
Bien sûr, la presse de droite se gausse, soulignant que Pollack rejoue les jeux du cirque. Mais le directeur des programmes, André Harris, continue de le défendre, revendiquant le droit d'être excessif. Un blanc-seing ? Oui, pour l'instant. Car en coulisses, les instances gouvernementales commencent à bouger. À 4 mois des législatives, le débat organisé entre le Premier ministre Laurent Fabius et Jacques Chirac tourne à l'avantage de ce dernier. Parce que les Français se lassent des piètres résultats des socialistes face à la crise. Sans parler du fait que l'année 86 s'ouvre sur une série d'attentats du Hezbollah en plein Paris. Et par l'enlèvement à Beyrouth d'une équipe de journalistes. Le 16 mars, avec son slogan « Vivement demain », la coalition UDF-RPR revient au pouvoir et Jacques Chirac s'empare de Matignon.
Bonsoir, il y avait un seul socialiste à la table du Conseil des ministres, premier du genre de la nouvelle législature, c'était le président de la République, François Mitterrand. En face de lui, le chef du gouvernement, Jacques Chirac, moins d'une demi-heure de réunion, et puis il annonce que M. Chirac demandera un vote de confiance à l'Assemblée nationale dès l'ouverture de la session le 2 avril prochain.
Côté médias, ça tangue également. En tout, et tout va très vite. Le 20 février, voit la naissance de la 5e chaîne berlusconienne, nommée La 5. Le 1er mars, c'est la chaîne musicale TV6 qui débarque, en référence à l'américaine MTV. Mais comment comprendre que 2 ans après avoir offert Canal Plus à son ami André Rousselet, François Mitterrand ait donné son feu vert à 2 nouvelles chaînes privées? Est-ce dû au fait que les chaînes nationales ont la réputation d'être à la botte du pouvoir? C'est que la télévision est depuis toujours un objet de fantasme. On s'y montre, on y façonne sa vision du monde, on s'y manipule. En somme, la télé est un projet politique, autant qu'un regard. Or, il s'agit aussi de s'y montrer moderne et fair-play. Un exercice subtil, comme l'explique François Mitterrand, ici, au micro de Paul Amar.
Vous ne craignez pas l'effet boomerang. Vous ouvrez les vannes, vous accordez plus de liberté, il y a des candidats politiques ou puissants. Si l'autorisation leur est refusée, ils crieront à la tête à la liberté.
Ce risque est évident.
Ça s'est passé pour les radios, d'ailleurs.
Interdisez la liberté, vous êtes accusé de tyrannie. Accordez cette liberté et vous êtes accusé d'anarchie. Et je serai avec un maximum de bon sens avec vous, si vous voulez bien, qui êtes de la partie et puis quelques autres. On essaiera d'avancer entre les deux périls. Oui à la liberté, mais à une liberté raisonnable qui ne tue pas la liberté.
L'équilibre est délicat en effet. Mais il y a aussi le fait, et François Mitterrand n'en parle pas, que vendre une chaîne, cela rapporte à l'État. Dans le cas TF1, on parle de 3 milliards de francs. Bon, c'est encore qu'une rumeur, bien sûr. Mais ce serait une aubaine, car les caisses de la France sont vides en ces années-là, comme aujourd'hui. 5 mois plus tard, coup de tonnerre. Le nouveau ministre de la Culture et de la Communication, François Léotard, annonce la privatisation de TF1. Son but ? Éloigner l'État de l'information, réduire l'importance du secteur public et favoriser l'existence d'un secteur de qualité, c'est-à-dire de création. Comme si ce n'était pas l'apanage traditionnel du secteur public, justement. Mais la droite a ses dogmes. Réaction à chaud, diffusée dans le JT d'Antenne 2.
Même si l'annonce de la privatisation était dans l'air, c'est tout de même avec inquiétude que la rédaction de TF1 apprend la nouvelle officiellement. Aparté dans les couloirs, plutôt que déclarations au micro qui se tendent déjà, beaucoup de monde en tout cas pour la conférence de rédaction où le journal du soir se prépare dans une ambiance apparemment détendue, mais aussi soucieuse de l'avenir.
Vous savez, j'ai 22 ans de maison, j'ai vu beaucoup de remous au sein de la RTF, de l'ORTF, de TF1. Je crois qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il faut d'abord savoir, si j'ose dire, à quelle sauce on va être mangé.
À quelle sauce vont-ils être mangés ? Une bonne question que Michel Pollack se pose, lui aussi. Dans le journal Le Matin, il déclare « Je pense que tant qu'Hervé Bourges restera à la tête de TF1, droit de réponse continuera. Mais ce qui est possible, c'est que je subisse des pressions insidieuses. Par exemple, que les administrations me verrouillent. Il est clair que certains dossiers seront difficiles à ouvrir. » Mais Pollack se trompe, car à la rentrée 86, il est reconduit. Non, les problèmes vont plutôt surgir de lui-même, dans sa façon toute polakienne de traiter l'affaire Malik Houssekine.
Que s'est-il passé la nuit dernière, rue Monsieur le Prince, dans le 6e arrondissement? Un groupe de manifestants repliés sur le quartier latin après l'évacuation dans le calme de la Sorbonne par les forces de l'ordre dresse des barricades et incendie des voitures à l'angle de la rue de Vaugirard et de la rue Monsieur le Prince. Une patrouille motorisée intervient pour dégager la rue. C'est au moment de cette intervention qu'un jeune homme de 22 ans, Malik Houssekine, étudiant à Dauphine et né à Versailles, va trouver la mort malgré les efforts des sauveteurs pour le réanimer. Arrêt cardiaque consécutif aux coups portés par les policiers, arrêt cardiaque dû à la peur, une enquête est ouverte par l'inspection générale des polices, la police des polices, pour déterminer les circonstances exactes du décès de ce jeune étudiant.
Dans la nuit du 5 au 6 décembre 86, en effet, un jeune étudiant est victime de violences policières dans le cadre des manifestations contre la loi de Vaquet qui prévoit de sélectionner les étudiants à l'université. Roué de coups par les policiers, Malik Houssekine est laissé pour mort dans le hall de son immeuble. Et le choc est considérable. Dès le lendemain, tandis qu'une enquête est ouverte, Polak invite des lycéens à s'exprimer, en direct. Mais étonnamment, et alors qu'au sommet de l'État, François Mitterrand déclare que la cohésion nationale doit passer avant toute chose, il impose une minute de silence et prend largement parti. À TF1, certains collègues déplorent l'exploitation politicienne de Michel Polak au mépris des plus élémentaires règles déontologiques. Et il précise « De tels procédés sont de nature à jeter le discrédit sur l'ensemble des journalistes de TF1 et sur notre chaîne. » Dans la foulée, la presse entière se retourne contre lui, comme ici, dans le quotidien de Paris.
Polak a ouvert son émission consacrée aux huissiers de justice par une minute de silence. Puis il a donné la parole aux étudiants, invités de dernière minute. Et comme il les trouvait trop modérés, il a pris le relais. Ça a été un véritable festival. Il s'est déchaîné contre les absents, contre le pouvoir, contre les CRS. Et pour finir, il a demandé la démission de Pasqua. Même à Libération, on a trouvé qu'il y allait fort. Quant au RPR, il a mal pris les choses. 9 députés ont demandé la suppression de son émission. Sa prise de position caricaturale s'inscrit dans une stratégie en provoquant le pouvoir. Qu'on l'écarte et il criera au martyr. Or, il est de moins en moins crédible.
En somme, en cette fin d'année 86, le pays souffre et Polak jette de l'huile sur le feu. Mais si étonnant, pouvait-on imaginer Polak Lana rester impartial face au drame de Malik Houssekine? Le lendemain, présentant les programmes de sa chaîne pour l'année 87, Hervé Bourges, président de TF1 pour encore un mois, minimise l'affaire et maintient l'émission. De son côté, interrogé par Le Matin de Paris, Polak confie « Je suis confiant, ils mourront, reste à savoir quand. » Oui, quelque chose se trame contre lui, il le sent bien. Est-ce la raison pour laquelle un mois plus tard, et alors qu'il fête la 500e, entouré de l'intelligentsia, il est victime d'un malaise cardiaque?
Dans la nuit de samedi à dimanche, Michel Polak a été victime d'un malaise cardiaque dans les locaux de la SFP et transporté à l'hôpital Cochin. Mais que ses 6 millions de spectateurs se rassurent, les médecins ont déclaré que son état n'était pas préoccupant. Samedi soir, il avait animé Droit de réponse dans une superbe veste moutarde au milieu de 200 invités. Hervé Bourges a félicité publiquement, je cite, « cet emmerdeur de service » et a fait cette réflexion qui, espérons-le, ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Avant de supprimer Droit de réponse, il faudra supprimer le PDG.
Le problème est que justement le PDG est en train de changer. Le 4 avril, la CNCL choisit celui qui aura la charge de remplacer Hervé Bourges à la tête de TF1 privatisé. Ce sera Francis Bouygues. Et c'est une surprise, car l'homme n'est ni un intellectuel, ni un professionnel des médias, mais un entrepreneur qui a fait fortune dans le bâtiment.
Madame, monsieur, bonsoir. Le mieux-disant s'appelle Francis Bouygues. C'est ce qu'a décidé, sans attendre, la Commission nationale de la communication et des libertés en lui attribuant aujourd'hui 50% du capital de TF1 aux dépens du groupe Hachette, pourtant donné grand favori. Tout de suite, voici la réaction de Francis Bouygues. C'était quelques minutes après l'annonce officielle. Maryse Manon et Philippe Peter l'attendaient au bas de chez lui.
Alors, quelle est votre réaction à chaud?
Je suis heureux. Je suis très satisfait.
Quand l'avez-vous appris et qui vous l'a appris?
J'ai appris ça à 2h, j'étais au restaurant.
Est-ce que vous êtes surpris?
Oui et non. J'aime bien les grands challenges, j'aime bien gagner,
Et jusqu'au dernier moment, j'ai toujours pensé que j'avais une bonne chance.
Bouygues aime les challenges et il laisse une paix royale à Pollack, tant qu'il ne dénigre pas la maison. Certes, le PDG repousse l'émission à 22h30, ce qui chagrine le journaliste. Mais il compense en doublant son salaire. Et Pollack ne le cache pas, désormais il touche 100 000 francs par mois. La rentrée 87 s'annonce donc sous les meilleurs auspices. Mais c'est sans compter sur l'instinct de provocation inhérent au journaliste, qui ne résiste pas à l'idée de consacrer son émission de rentrée à la CNCL, que Pollack accuse de corruption dans l'attribution des fréquences radio. Tandis que Plantu signe un dessin où il la renomme « Commission nationale composée de l'ARBA ». La CNCL se cabre et demande à Bouygues la tête de Pollack. Bouygues joue la montre. Mais l'émission suivante sera la dernière. Le sujet de ce 19 septembre est consacré à la construction du pont de l'île de Ré, dont le chantier a été confié au groupe Bouygues de façon opaque. Et Pollack le sait. Il prend le risque. Alors en plateau, tout de même, il se modère, sans savoir en vérité que la flèche va venir de sa propre équipe. À la palette graphique ce soir-là, c'est le dessinateur Viaz qui officie.
L'idée, c'était de reprendre le slogan de Bouygues qui était une maison de maçon, donc un pont de maçon, et au départ une télé de maçon, tout bêtement. Là-dessus, je me suis trouvé un peu bloqué, je me suis retrouvé avec mon M. C'est vrai qu'au moment où je l'ai fait, je me suis dit, ça veut aussi dire... Peut-être que Bouygues est furieux de l'émission, etc. Ça va... l'ambiguïté m'a amusé et je l'ai passé comme ça. Et puis il est passé comme ça. Mais c'était en tout cas pas une télé de merde. Enfin, en tout cas, dans mon esprit à moi, c'est évidemment pas ce que j'avais voulu dire. Si j'avais voulu mettre télé de merde, j'aurais écrit télé de merde.
Et donc il n'a pas écrit télé de merde. Mais c'est tout comme. Et il n'en fallait pas plus pour que Francis Bouygues sorte de ses gonds. L'émission Droit de réponse est stoppée net. Pollack et ses équipes viraient de la chaîne. Immédiatement, la Ligue des droits de l'homme, la CGT et le mouvement des jeunes socialistes organisent un rassemblement. Côté Figaro, en revanche, Max Clot écrit « C'est une émission que je détestais, un personnage que je détestais. Par conséquent, je me réjouis qu'il disparaisse. » Or, un sondage IFOP pour Le Parisien révèle que 65% des Français désapprouvent ce licenciement. Partout, les débats font rage entre les pour et les contre Pollack. Une pétition est lancée, titrée « On l'aime ou on ne l'aime pas, mais il est indispensable ». Et ils sont nombreux à la signer. Jean-François Kahn, Yvan Levaille, Claude Sérillon, Pierre Péan, Franz-Olivier Gisbert, Edoui Plenel. D'autres prennent la parole. C'est Jean Daniel, du Nouvel Obs, pour qui, quand on a un provocateur aussi valorisant, on ne s'en sépare pas. Alors qu'Anne Sinclair, l'animatrice de 7 sur 7, tente-elle la synthèse. Je n'ai pas pu voir l'émission incriminée, mais... il me semble assez naturel que le patron de TF1 n'ait pas supporté d'être traîné dans la boue, qui plus est par quelqu'un à une. Je crois cependant qu'un blâme aurait pu suffire, car à tort ou à raison, Michel Pollack est devenu un symbole. Oui, un symbole dont les politiques s'emparent. Et en premier lieu, Jack Lang, qui déclare « Bravo Chirac, vous pouvez exulter, une nouvelle tête tombe et un oasis de liberté disparaît. Ne manquez surtout pas d'adresser un télégramme de félicitations à vos copains de la CNCL ». De son côté, le député RPR Michel Péricard s'interroge « Qui accepterait qu'on puisse à la fois toucher 100 000 francs par mois d'un employeur et le traiter de merdique ?» À Matignon, c'est la panique. TF1 a été privatisée pour garantir davantage de liberté et elle paraît dysfonctionnelle. La CNCL a été créée pour contrer l'influence du pouvoir, elle serait aux ordres de Chirac. Et d'ailleurs, elle disjoncte après 18 mois d'existence. Pour preuve, deux de ses membres, Catherine Tasca et Bertrand Labrusse, s'en désolidarisent et font bruire la rumeur de leur démission. Aux abois, François Léotard monte au créneau et assure « En vrai libéral, je me battrai pour que Michel Pollack puisse dire tout ce qu'il a envie de dire. Car après tout, pamphlets et caricatures, tout cela fait partie de l'univers des Français. » François Mitterrand, lui, garde le silence. Et dans son édito du 23 septembre, Serge Julie s'interroge. Mitterrand est-il doué d'un sixième sens politique? Dans les mêmes colonnes, Gérard Dupuis écrit.
Rarement autant de personnalités, associations, partis et syndicats auront avec un tel entrain pris la parole. C'est peut-être là le vrai succès de Pollack, s'être si bien identifié à celui par qui la libre parole arrive, et servir de révélateur à l'abcès persistant que constitue l'audiovisuel en France.
Mercredi 23 septembre 87, le tout Paris se presse à la Bastille, direction la brasserie Beaufinger, pour une conférence de presse. Là, au deuxième étage, Pollack est attablé avec son équipe, ses deux sets d'or posés devant lui. Tous l'interrogent. La direction de TF1 a-t-elle obéi à la droite qui réclamait sa tête? Et quid du rôle de la CNCL? Pollack en est sûr, les ordres viendraient de Matignon et il promet de porter plainte pour licenciement abusif. Alors, intervention extérieure? Pas du tout, assure le porte-parole du gouvernement Alain Juppé. Nous désirons tous couper le cordon ombilical entre la télé et les pouvoirs publics. Idem du côté TF1, pour qui ce licenciement n'est qu'une sanction disciplinaire prise à l'encontre d'un producteur qui avait franchi les limites. En somme, à TF1, la page est tournée. Et pour remplacer Droit de réponse, dont le prochain sujet était consacré aux ventes d'armes, quoi de mieux que de détendre son cerveau devant la série Columbo? L'épisode est tout choisi, il se nomme « Tout n'est qu'illusion ». Dès lors, que devient Michel Pollack? À première vue, les médias se l'arrachent. Mais à y regarder plus près, les directions rechignent à l'accueillir. Sur Canal+, André Rousselet parle d'une fausse bonne idée. Et sur La 5, Hersan refuse carrément de le recevoir. Quant à Antenne 2, restée dans le giron du service public, elle préfère ne pas se prononcer. Et, au bout du compte, c'est la jeune M6 qui le recueille pour un salaire divisé par deux. Ah, n'est pas Bouygues qui veut. L'émission se nomme « Libre et change », en deux mots, « Libre et change », sorte de club littéraire. Elle tient 2 ans, à l'issue desquels Pollack se retire dans sa maison des Cévennes. Un retrait qui, cette fois, laisse la France indifférente. C'est que les années 80 prennent fin et avec elles s'implantent de façon durable, samedi soir, des émissions dites d'infotainment, genre Ardisson, Ruquier, aujourd'hui Salamé Chavanne, des programmes qui mélangent info et divertissement, au risque de faire perdre aux spectateurs ses repères, ou le détourner, comme disait Bourdieu, de ses préoccupations démocratiques et citoyennes. Reste la part de cerveau disponible pour la pub. Alors, que reste-t-il aujourd'hui de Droit de réponse? Eh bien, à la fois une ambiance, à la fois libertaire et mitterrandienne, un décor enfumé, un sentiment d'affranchissement, et ces mots, signés Laurent Geoffrin dans Libération. Pollack tombe en martyr cathodique, c'est la mort audiovisuelle rêvée.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, souvenir de Français, de télé française, Droit de réponse avec Michel Pollack. Notre invité, Laurent Geoffrin. Bonjour, Laurent.
Bonjour.
Journaliste, bien sûr. Alors, les admirateurs de Pollack sont nombreux, mais ses détracteurs lui reprochent souvent son air narquois. Dans le Figaro, Bertrand de Saint-Vincent écrit « La veille de la première, il est l'invité du journal de 20h, il précise ses intentions, il a la mine gourmande d'un chat qui vient d'apercevoir une souris. » Bonne description pour vous, du personnage?
Oui, c'est vrai, mais la question du caractère personnel de Pollack est secondaire, à mon avis, tout à fait anecdotique. La vraie question, c'est que ça a été une libération, cette émission. Ça a été un événement médiatique considérable. Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait des émissions où il y avait des clashs, où il y avait des dossiers de l'écran, certains dossiers de l'écran.
Oui.
Il y avait une émission qui s'appelait Armes égales, où les gens... mais c'était des hommes politiques. Tandis que là, c'est la société qui apparaît. C'est ça qui était nouveau. La société libre, pas organisée dans des consultations où vous avez un agriculteur, un ouvrier, puis chacun joue son rôle. Pas du tout, c'était complètement inattendu, spontané, improvisé, et vous aviez à la fois des... Ça peut être une ouvrière qui raconte sa vie de femme à la chaîne, quoi. Ça peut être un syndicaliste, un patron, un patron de PME, un médecin, enfin, tout le monde y était, et il y avait un savant mélange d'excellence, hein, de gens qu'on voyait souvent à la télé, genre Dormesson, Jean Daniel, tout ça, puis alors, de gens complètement inattendus, qui apparaissaient comme ça, et avec une mise en scène qui était volontairement organisée pour produire, non pas le désordre, mais la surprise, quoi. Parce qu'il y avait des gens qui étaient au fond, tout à fait au fond, hein, vous savez. Et puis d'un coup, il levait la main et il commençait à parler. Alors c'était inattendu, alors Pollack les laissait parler, puis après il passait à quelqu'un d'autre. Et donc il y avait une espèce de bouillonnement. En fait, c'était une émission qui, avec... combien de temps de retard? 10 ans, 12 ans de retard. C'était mai 68 à la télé.
Oui.
C'est exactement ça. Enfin, d'ailleurs, les gens ont dit, oui, c'est un bistrot. C'est pas un bistrot. C'était une AG étudiante.
Ouais, c'était une agora.
Une agora, mais pas une agora avec un amphithéâtre.
Non, non.
C'est, les gens, c'est dans
c'est
les âgés étudiants...
C'est place publique, quoi. C'est
moi, ça m'a fait penser aux âgés de Libé que j'ai connus pendant longtemps. C'est-à-dire, c'est une salle qui est parfaite pour ça. Alors, les gens s'assoient un peu n'importe où. Et puis, il y en a qui sont couchés, il y en a qui sont debout, etc. Il y en a qui prennent la parole, d'autres qui hurlent, etc. Il y a un président de séance qui essaye de maintenir un semblant d'ordre, qui distribue la parole. Et puis, petit à petit, il y a une hiérarchie subtile qui s'installe, vous avez des grandes gueules, vous avez des gens qui disent jamais rien, d'autres qui sont drôles, d'autres qui sont un peu emmerdants, mais on les laisse parler, etc., etc. Et c'est un théâtre, comme ça.
Oui, et avec la caméra de Dugosson aussi, qui passe des tables, comme ça.
Qui bouge, et qui est en contre-plongée, avec la musique de Portal, qui est un peu dérangeante, un peu curieuse, bizarre, etc. Tout le début, en plus, le début de l'émission, où on voit le plateau, mais comme si on se promenait une assemblée de zombies, quoi. Hein, puisque c'est décolorisé avec cette musique un peu inquiétante, et donc tout ça était entièrement neuf, quoi.
Ouais.
Le fait de mettre des dessinateurs à l'antenne qui on ne savait pas ce qu'ils allaient faire, le fait de prendre des micros extérieurs avec des gens qui intervenaient tout d'un coup, on ne savait pas pourquoi et ce qu'ils allaient dire. Enfin bref, tout ça était 68. C'est 68, c'est le bon côté de 68, mais il y a aussi les mauvais côtés, mais ça on pourra y revenir. Mais il y a le bon côté de 68. Avant, Général de Gaulle considérait que la télévision c'était sa chose, puisqu'il avait la presse écrite contre lui. Donc il disait, la presse écrite est contre moi, moi j'ai la télévision. Et puis après, Pompidou a dit, c'est la voix de la France. Donc il y avait un peu d'opposants, mais c'est quand même la voix de la France, un peu compassé, etc., sous influence. Et Giscard, lui, a libéralisé un peu. Il a fait
éclater... Pas structurellement, mais pas sur le fond.
Il a fait éclater le RTF, ouais, mais il intervenait quand même, parce qu'à l'époque, la classe politique avait l'illusion de pouvoir contrôler les lecteurs à travers les journalistes de télé. Ce qui était un peu désagréable pour les journalistes de télé, et certains l'ont payé parce qu'ils ont été virés quand la gauche est arrivée, mais c'était une illusion, quoi. Il y a un moment où la volonté de parler, de s'exprimer ou de montrer les choses est plus forte que tout, surtout si la société évolue dans ce sens-là après 68.
Est-ce que c'est aussi l'illustration de la télé socialiste qui avait dit on va mettre
oui, ça c'est vrai, ça c'est le bon côté
dès 20h30.
Enfin, c'est le bon côté après qu'il y a eu un revers à cette médaille, mais Mitterrand est allé, par exemple, il était allé soutenir les radios libres.
Ah oui.
Parce qu'on a du mal à imaginer ça aujourd'hui. Là, il y avait un monopole d'État sur les ondes. C'est l'État décidait de qui avait le droit d'émettre ou pas d'émettre, etc. Et donc, il y avait des sociétés publiques qui faisaient toutes les émissions. Alors, il y avait des radios dites périphériques. On appelait ça périphérique.
Pourquoi? Oui, parce que l'émetteur était en dehors des frontières de la France.
S'ils avaient été en France, ils auraient été fermés.
Ouais. Donc
ils se mettaient à Monaco et au Luxembourg. Mmh. Donc c'était radio périphérique. Alors on les écoutait quand même, c'était quand même libre, mais juridiquement, ils n'avaient pas le droit d'être là. Et la télé, c'était encore pire, parce que alors là, c'était complètement monopolisé. Donc c'était une situation intenable dans des régimes démocratiques. Il y a un moment où le pluralisme s'installe avec ses grandes qualités, mais aussi parfois ses défauts. Et donc, on l'a vu avec Pollack, d'ailleurs, puisque tant qu'il a été dans la télé publique, bon, il était à peu près protégé, puis il passait dans le privé, hop, dehors.
Alors, on va écouter, on va entrer à l'intérieur, dans les coulisses de l'émission. On va écouter, comme promis, le témoignage de Catherine Weilsine. Elle est directrice de la publication de Cinéma Mensuel, mais elle est ex-rédactrice en chef de l'émission Droit de réponse. Elle répond à Sophie Bobert, d'Affaires Sensibles.
Michel Pollack, c'était quelqu'un qui était tout de même assez passionnant. D'abord, il était d'une culture inouïe, puis il avait une mémoire d'éléphant. Donc il pouvait absolument être dans toutes les situations et s'en sortir par la culture. C'était quelqu'un qui était à la fois, comme tous ces hommes, un peu, comment dire, il y avait Pollack et puis le reste du monde, quoi. Mais quand même, il était, c'était quelqu'un de... Vous voyez, par exemple, jamais, 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 il y avait une histoire de copinage avec lui, même ses amis. Il n'aurait pas parlé d'un livre de ses amis si le livre n'était pas bon. Ça n'existait pas, ça.
Donc un honnête homme, davantage qu'un mandarin de gauche.
Oui, il était de gauche, parce que c'était dans l'ordre des choses. À l'époque, on sortait quand même d'une télévision bien sage, bien aux ordres, etc. Donc forcément, des gros mots à la télé, c'était pas bien vu, quoi. Faut dire les gens. Et le lendemain, toute la presse demandait l'interdiction de l'émission. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi, quoi. Et puis, ça a continué, voilà.
Lorsque vous dites toute la presse, c'est toute la presse de droite et de gauche, hein.
Oui, madame. La presse de gauche a un peu moins, mais la presse de droite était décédée, la presse du centre décédée, la presse de... au pire, elle ne parlait pas de nous, comme ça c'est encore plus simple. Nous, c'est à Tour de Ville d'Aigle quand Bouygues est arrivé, jusque-là... De toute façon, comment vous expliquer ? Ça tournait vidéo à chaque émission. C'est-à-dire qu'à chaque émission, ça pouvait déplaire. Et à l'époque, vous voyez, une lettre reçue à la chaîne, c'était très important. On était convoqués, quoi. Mais je sais pas, contre les notaires, les jardiniers, la campagne, les nains, etc. À chaque fois, on retombait sur le financement des partis. Donc ils nous ont reculé d'heure, on a été punis, on est passé de 8h30 à 9h30, puis après ils ont voulu nous mettre de la pub, et Saint-Michel a refusé d'être coupé par la pub. Donc du coup, il a fini par accepter une coupure de pub, et on a été déplacé à 10h30 du soir. Donc si vous voulez, les punitions arrivaient comme ça.
Et tout dégénère,
c'est pas compliqué, ça a duré 2 émissions sous le règne du Bouygues. Et on a dit que c'était un dessin, etc. En fait, c'était rien du tout. C'était la SNCL qui pouvait pas nous encadrer et qui voulait vraiment qu'on arrête cette émission, qui l'a chiffonnée. Et donc, ils ont fait un deal avec Bouygues. Ils lui donnaient des autorisations d'avoir des antennes partout pour développer la chaîne. Et en fonction de quoi, il licenciait voilà, qu'elle avait son équipe. C'est aussi simple que ça.
C'est dommage parce qu'au départ, Bouygues joue jeu, il achète TF1, il ne vire pas Pollack au départ.
C'était difficile de le faire d'emblée parce qu'on aurait dit immédiatement, oui, on privatise et ça y est, maintenant c'est la censure, etc. C'était compliqué. Alors, Catherine Siné dit qu'il y a eu une collusion entre la CNCL et Bouygues pour virer.
Elle accuse la CNCL, vraiment.
Tout est possible, c'est possible qu'ils aient fait ce deal. Mais en même temps, le dessin, c'est vrai que le dessin de mon ami Vias, moi j'ai travaillé avec Vias pendant des années, et qui est l'homme le plus sympathique et talentueux du monde, et c'est vrai que son dessin, il me l'aurait apporté dans l'Obs en disant l'Obs, un journal de M, 3 petits points. Bon, j'aurais dit, écoute, là tu vas un peu loin quand même. Mais c'est difficile comme cas.
Bien sûr.
Vous avez un dessinateur, il vient vous. Vous dire, vous êtes un journal de merde. Et là, c'était pareil, vous êtes une chaîne de merde. Et en même temps, il ne fallait pas le virer, quoi. Il ne fallait pas arrêter l'émission. Parce que l'arrêt de l'émission, c'est une peine capitale pour une faute vénielle. Bon, ils auraient dû dire, écoutez, ne recommencez pas, parce que là, vraiment, vous nous gênez. Vous ne pouvez pas nous cracher dessus comme ça. Après tout, c'est nous les patrons maintenant, c'est nous qui vous faisons vivre. Vous pouvez pas vous pouvez nous critiquer, mais pas nous insulter. C'est quand même une insulte. Donc, est-ce que c'est un complot CNCL ou est-ce que simplement Bouygues a dit, écoutez, parce que dans n'importe quelle entreprise privée, le salarié qui dit je travaille dans une entreprise de merde, évidemment,
il est viré.
Écoutez, si une entreprise est aussi horrible, prenez la porte.
Mais bien sûr.
Et ça se retrouve dans toutes les entreprises, hein, ce genre de problème.
Alors, vous disiez, droit de réponse, c'est mai 68, le prolongement de mai 68, lorsque 68 a de positif, mais aussi de négatif. Vous pensez à quoi ?
Regardez, l'émission a gagné sa notoriété nationale, si j'ai bien compris, hein, vous me corrigez si je me trompe. C'est parce qu'il y a eu ces insultes proférées par les gens de Charlie Hebdo à l'égard de divers personnages. Il y avait Jean Bourdier, qui était le directeur de Minute à l'époque, journal d'extrême droite. On peut dire d'extrême droite encore. Mais... Et deuxièmement, il y avait des lycéens qui disaient « Je lis plus Charlie Hebdo, c'est que tous des vieux cons, etc. » Et l'autre qui dit « Mais vous êtes des trous du cul. » Enfin bon, excusez-moi de citer...
Ce sont les mots de l'émission,
entre guillemets. Quoi. Et aujourd'hui, on verrait ça à la télé, on dirait « Voilà, ça continue, la vulgarité commerciale, ils font n'importe quoi pour obtenir de l'audience, ils sont prêts à tout, etc. » On dirait ça aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a une ambiguïté dans cette affaire.
Bien sûr.
Et les clashs, le type qui jette un cendrier, ou Gainsbourg avec un ballon qui fait un bruit disgracieux, là, on dirait, alors vraiment, c'est le cirque. Ce qu'on dit aujourd'hui de Hanouna ou de Pro, on dit, ouais, c'est le cirque. Mais c'était un peu le cirque déjà.
Alors, oui, mais il y a le fond.
Quand on regarde l'ensemble des émissions, quand on se replonge dedans, on voit bien que c'était des exceptions. C'était deux ou trois émissions. Le reste était tout à fait spontané, improvisé, un peu désordonné, mais sur des questions réelles. Et ça donnait la parole à des gens intéressants, de tous ordres.
Bien sûr.
Mais ces dérapages-là, ou ces clashs-là, présagent aussi d'une évolution de la télé, qui n'est pas forcément très bonne.
Je vous remercie, Laurent Geoffrin.
Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir
invité. Au revoir, à bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Droit de réponse de Michel Pollack, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr, à la technique, il y avait Titouan Labarre.